Mes chères auditrices et auditeurs d'Académ, quelle joie, quel plaisir de vous retrouver pour ce second épisode de la Paracha en musique. Et pas pour n'importe quelle occasion. Car aujourd'hui, nous réouvrons... Nous réouvrons le livre de l'Exode. Celui qui raconte une histoire d'esclavagisme et de libération, une histoire d'émancipation et de devenir. Autant vous prévenir, ce n'est pas du tout une histoire importante dans l'histoire du peuple juif. Ce n'est même pas du tout son histoire principale. Et avec dans le rôle principal de notre paracha, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, j'ai le plaisir de réaccueillir enfin celui qui nous avait tant manqué, j'appelle Moïse, ou Momo pour les intimes. Mais qui est Moïse? Grande question. D'ailleurs, lui-même se la pose jusqu'à très tard dans sa vie. Car Moïse est tour à tour enfant caché, rescapé, transfuge de classe, prince, meurtrier, clandestin, neurodivergent, bègue, frère, leader et sauveur, Moïse est un être multiple. Et c'est justement cette multiplicité qui fait de lui un héros si profondément humain. Alors aujourd'hui, j'avais envie avec vous de retracer les différents visages, les différentes facettes et identités que Moïse va endosser tout au long de cette paracha, évidemment en musique. Par où commencer? Peut-être par une remise à niveau pour ceux et celles d'entre vous qui nous rejoignent en chemin. Vous vous souvenez peut-être que Jacob, fils d'Isaac, petit-fils d'Abraham, avait 12 fils. Et l'un d'entre eux, son favori Joseph, est vendu par ses frères à des marchands égyptiens avant de devenir, dans une remontada que seule la Torah connaît, grand vizir d'Égypte. Lorsqu'une famine frappe, ses frères durent lui faire face, s'excuser, et toute la famille émigre dans une province d'Égypte. Ainsi s'achève le livre de la Genèse. Notre paracha, la première du livre de l'Exode, s'appelle Shemot, qui en hébreu signifie les noms, au pluriel. Elle s'ouvre en rappelant les noms de ses 12 frères, les 12 tribus, enfants de Jacob arrivés en Égypte. Pour rester fidèle à mon premier épisode, j'aimerais ouvrir cette lecture en citant à nouveau Shakespeare, qui dans l'acte 2, scène 2 de Roméo et Juliette écrit « What's in a name ? Qu'y a-t-il dans un nom ? Ce que nous appelons une rose sous un autre nom s'en tirait aussi bon. » Selon Shakespeare, un nom, Capulet, Lévy ou Montaigu, Cohen, ne détermine aucunement le destin d'un homme. Mais vous voyez, William n'avait sûrement pas fait de psychanalyse. Nous savons aujourd'hui qu'un prénom n'est jamais neutre. Il porte en lui une histoire familiale, parfois même une mission ou un héritage transmis de manière inconsciente.
Oui, je trouve ridicule de donner des prénoms qui n'existent pas. Cette surenchère dans l'originalité, c'est plus des prénoms, c'est des post-it collés sur le front.
Alors justement, parlons du premier nom de Moïse, ou plutôt de son absence. Car tout d'abord, avant même d'être mis au monde, Moïse est un enfant caché. À cette époque, pour ralentir la croissance démographique importante de la minorité ethnique israélite au sein de l'Empire égyptien, un décret est promulgué par Pharaon dans notre paracha. Tout fils hébreu qui naîtra devra être jeté dans le Nil. Sa mère, Yochaved, doit donc cacher non seulement sa grossesse, mais aussi son accouchement au risque de se faire enlever son bébé. On a toutes, dans nos familles, des enfants cachés, des non-dits, des squelettes dans l'armoire. Et Moïse, à la base, avant même qu'on lui assigne un prénom, il est un secret. C'est quand même insensé de se dire que le prénom donné au prophète de l'histoire juive, qui par ailleurs apparaît aussi dans le Coran et le Nouveau Testament, reste un mystère pour tous. Une autre chose nous est dite dans le texte, c'est que Moïse est décrit comme sortant de l'entrejambe de sa mère, étant Tov. Vatereoto ki Tov, un bon nouveau-né. Qu'est-ce que cela veut dire? Rabbi Meir, selon le Torah Temima, aurait enseigné que c'était tout simplement le prénom donné par sa mère, Tovia, comme on connaît par exemple aujourd'hui un Toby Nathan. Rashi, lui, avance qu'il est décrit comme Tov parce qu'au moment de sa naissance, la maison s'est emplie de lumière, annonçant l'enfant comme celui qui ferait sortir les Israélites de l'obscurité. D'autres commentateurs proposent l'idée que Moïse est un enfant prématuré et qu'il serait sorti à 6 mois. Et donc, il était Tov, car miraculeusement en bonne santé. Enfin, selon Rabbi Nechemia, l'enfant est qualifié de Tov parce qu'il serait né déjà circoncis. Nul besoin d'un débat interminable sur la brutalité faite à l'encontre du corps des hommes. Moïse était juste né parfait. Voilà, moi je pense à ces gens que je rencontre dans la vie de tous les jours, qui ont un cœur pur, de bonnes intentions, et restent des mensch à travers toutes les situations. J'aime imaginer que Moïse lui aussi était bon dans ce sens-là, bon du cœur. Mais le petit Tov, cet enfant de lumière, ne peut rester caché éternellement. Pour sauver sa vie, il est déposé dans un panier de roseaux et atterrit dans les jardins de la fille du Pharaon qui se recueille auprès du Nil. Elle comprend rapidement qu'il est hébreu et décide de l'élever dans sa maisonnée sans jamais révéler son identité à l'enfant. Alors bon, à nouveau, on nous conte cette histoire comme d'une destinée miraculeuse, comme d'un dénouement inattendu. Mais grâce à la littérature moderne, et je pense notamment à des auteurs comme Édouard Louis ou à Annie Arnaud, on connaît maintenant le terme de transfuge de classe et toute la violence qui vient avec ces changements identitaires profonds. Musicalement parlant, c'est un peu comme si on venait de...
בצד ישראל ממצרים, בת יעקב מעם לא עז לה לילה, לה לה לילה לם, לה לילה, לה לה לילה לם. בהרים רקדו כאלים, כבעות כבן עצון, לה לילה,
לה לה לילה, לה 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 Autant vous dire que le choc est grand. Le petit rescapé se voit donner le nom de Moshe. Le texte nous dit « parce que je t'ai tiré des eaux ». Min hamaim mishitihu. Comme enfant, Moïse se sent déjà un peu différent des autres garçons dans la cour de récré. Je ne vous raconte même pas ce qui se dit dans les vestiaires après le foot. J'entends les paroles du chanteur et compositeur brésilien Rodrigo Amarante résonner dans ma tête.
Je suis l'étranger et ça peut se voir. Je ne parle pas tout à fait comme toi.
Moïse grandit dans les fastes du palais du Pharaon comme un jeune prince entouré du luxe et des privilèges qui vont avec. Mais quelque chose en lui le chatouille, le dérange, pire, l'indigne. Il a cette conscience sociale aiguë, presque déplacée pour son rang, et s'identifie davantage à l'oppressé qu'à l'oppresseur. Il doute, se questionne. Le jeune homme ne sait pas qui il est ni d'où il vient. En bref, voici ce que Moïse aurait pu chanter si quelqu'un avait été là pour l'écouter.
Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais bien être oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers.
C'était étrange sentiment de décalage va le pousser à un acte irrémédiable. Face à une scène où un administrateur égyptien humilie et frappe un hébreu, il décide d'intervenir, il tue l'égyptien et cache son corps dans le sable. Horreur, malheur. Poursuivi pour meurtre, Moïse, prince d'Égypte, doit fuir loin, très loin. Il se retrouve seul, sans abri, sans famille, sans identité, sans flouze, sans métier, dans le désert du pays de Midian. Il est ce que Manu Chao appellerait
Mano Negra clandestina, Peruano clandestino, Africano clandestino, Marihuana illégal.
Cette condition de migrant, de réfugié, il ne l'oubliera jamais. Il ira même jusqu'à nommer son propre fils aîné, Gershom, car, dit-il, j'ai été étranger en terre étrangère. Alors je vous le demande, what's in a name? Midian joue un rôle crucial dans l'histoire de Moïse. C'est un peu l'ancêtre du type qui va faire son burn-out dans le Périgord et se reconvertir en éleveur de chèvres. Midian, un endroit calme pour se retirer, tête basse pour se reconstruire. Dans ce cocon, il est entouré par son beau-père, Yétro, prêtre de Midian, et de celle qui deviendra sa femme, Tsippora. Il travaille comme berger, dans le réel, apprend la valeur du labeur et gagne enfin sa place sans artifice ni prétention. C'est un temps de réapprentissage, d'humilité et de reconnexion avec lui-même. Mais la paix ne dure jamais bien longtemps pour les héros et héroïnes de notre histoire. Attiré par un feu qui ne cesse de brûler, Moïse se perd dans une montagne où il en vient à entrer en lien avec le divin.
Who are you?
I'm the one. Creator of the heavens and the earth, Alpha and Omega. Bruce, I'm God.
Bingo, Yahtzee.
On comprend vite que Moïse, ce n'est pas tellement Jim Carrey dans Bruce Tout-Puissant, mais ce serait plutôt le Forrest Gump de notre histoire.
Hello. My name's Forrest, Forrest Gump. Do you want a chocolate?
Insécurisé, anxieux, complètement inadéquat, mal dans ses baskets, rongé par le syndrome de l'imposteur. Comme nous tous et nous toutes, Moïse cherche sa place, jamais sûr de lui, toujours hésitant. Alors quand Dieu lui dit « C'est toi, je te choisis comme messager d'une mission divine et révolutionnaire, tu vas libérer le peuple israélite du joug égyptien », son premier réflexe est de répondre « Non, 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 non. ». Il dit alors à Dieu « Lo ish devarim anochi ». Je ne suis pas un homme de mots. Plus tard, il dira Ani kaved pe. Je ne suis pas circoncis de la bouche, lourd de la bouche, handicapé de mon élocution. En plus, il ne sait même pas à qui est cette force, cette voix qu'il appelle, et il proteste. Les enfants d'Israël me demanderont ton nom, que leur dirai-je? Le texte littéral nous donne la réponse de Dieu en hébreu. Aïe, asher aïe, ce qui en français est traduit par Je serai ce que je serai. Je vous demande donc d'imaginer le divin non pas sous les traits de Morgan Freeman, mais plutôt sous ceux de Gloria Gaynor quand elle chante.
Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
Inspiré par cette énergie divine, Moïse se met en marche vers l'Égypte avec sa femme et ses deux enfants. Il y retrouve son frère Aaron, qui deviendra son porte-parole et attaché de presse, son traducteur et plus tard Cohen Agadol, le plus haut prêtre. Ainsi que sa sœur Myriam, qui sera tout au long de notre récit de la sortie d'Égypte, femme des eaux, mère de la nation. Pour la première fois de sa vie, Moïse ne doit plus se justifier d'être qui il est. Aaron et Myriam l'ont vu naître. Myriam est celle qui a suivi le berceau tout au long du Nil. Son histoire de prince d'Égypte exilé et sauveur du peuple ne les étonne nullement. Au contraire, Il l'attendait. Alors, c'est sûr que c'était pas Broadway à l'époque, mais j'aimerais vous demander quelques instants d'imaginer Aaron sous les traits de Louis Armstrong et Moïse sous ceux de Barbara Streisand dans la comédie musicale Hello, Dolly en 1969.
It's so nice to have you back where you belong.
I am so glad to be back.
Après s'être retrouvés et avoir convaincu les anciens du peuple, ceux qui avaient gardé une mémoire de la promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob, les deux frères se mettent maintenant en route vers le palais, où ils doivent demander à Pharaon de laisser les Hébreux partir dans le désert pour 3 jours. On pourrait imaginer ce premier échange entre les 3 hommes comme l'aurait fait Clint Eastwood dans Le Bon, la Brute et le Truand. Mais moi, je préfère de loin imaginer Moïse comme Aretha Franklin dans le film des Blue Brothers sorti en 1980 et Pharaon comme l'homme en face d'elle à qui elle dit
« You better think about what you're saying. You better think about the consequences of your actions. »
Oh, shut up, woman.
You better think.
Moïse ne vient pas implorer le pardon pour son crime auprès de Pharaon, ni négocier. Il exige d'abord que les esclaves soient libres pour 3 jours dans le désert, puis, semaine après semaine, il ira jusqu'au bout. La liberté totale, obtenue au prix terrible des 10 plaies d'Égypte. Oh, freedom, freedom,
freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom.
Le parasha Shemot, malheureusement, ne se termine pas sur une note aussi glorieuse. Au lieu d'accepter, on connaît la chanson, Pharaon refuse, et pire, il renforce les tâches et la peine imposées aux travailleurs hébreux. En retour, les Hébreux se plaignent auprès de Moïse et Aaron. Où sont tes promesses? Regarde dans quel pétrin tu nous as mis. Je ne vous en dis pas plus, d'autres chroniqueurs vous raconteront la suite au prochain épisode. Je vous laisse néanmoins avec ce que m'a appris la paracha Shemot cette année. Elle m'a rappelé que la multiplicité n'est pas une anomalie, mais une condition fondamentale de notre humanité. Tout comme Shemot signifie « les noms » au pluriel, Moïse porte en lui plusieurs vies, plusieurs identités. De même que le Ham Israël se compose de 12 tribus diverses réunies autour d'un seul destin commun, l'être humain est lui aussi fait de strates, de rôles et de passages qui se superposent et se répondent tout au long de notre vie. Alors qui est Moïse ? Moïse est tour à tour enfant caché, le petit Tobia, rescapé, transfuge de classe, prince meurtrier, clandestin, neurodivergent, bègue, frère, leader et sauveur. Il est tout cela à la fois. Et nous aussi. Vous voyez, l'histoire de Moïse nous rappelle que nous sommes un peu comme une symphonie. Plusieurs mouvements, plusieurs instruments, plusieurs tempos, mais une seule œuvre. Avoir plus d'une identité n'est pas seulement possible, c'est inévitable. Et c'est précisément cette pluralité-là qui nous permet de révéler notre part de divin.